Il est 8h ici à Paris, 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Gaëtan Plenet.
Et Alban Leprince pour un nouveau journal.
Et nous reviendrons dès le début de cette édition sur la visite hier des ministres français et allemands des affaires étrangères à Damas, en Syrie. Ils ont rencontré le nouveau dirigeant du pays un mois après la chute de Bachar al-Assad. L'occasion de faire passer des messages clairs de la part de l'Union européenne. Des appels à manifester aujourd'hui en Corée du Sud au lendemain d'une tentative ratée d'arrêter Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion pour avoir essayé il y a un mois d'imposer la loi martiale. Deux camps s'affrontent. Affronte les pros et les anti. Nous serons en direct de Séoul dans ce journal. Au sommaire également, ce nouveau contingent arrivé hier en Haïti, ravagé par la violence des gangs. 83 soldats pour soutenir les 400 policiers de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et puis, trois mois après le début des violences post-électorales au Mozambique, plusieurs milliers de personnes ont traversé la frontière pour se réfugier dans les pays voisins. D'autres sont piégés, confrontés à des risques immenses, selon les Nations Unies.
En Syrie, les ministres français et allemands des affaires étrangères ont plaidé hier pour un transfert du pouvoir inclusif et pacifique, une réconciliation et la reconstruction.
Déclaration après leur rencontre à Damas avec Ahmed al-Shara, le nouveau dirigeant de la Syrie, que l'on connaissait jusqu'ici sous son nom de guerre, Abu Mohamed al-Jolani. Première réunion à ce niveau avec des responsables des grandes puissances occidentales un mois après la chute de Bachar al-Assad. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont tout de même adressé un certain nombre de messages aux nouvelles autorités. Nicolas Falaise.
Appel à une transition pacifique et inclusive, appel à une solution politique avec la minorité kurde de Syrie, appel à la destruction des stocks d'armes chimiques hérités du régime de Bachar el-Assad. À Damas, les deux chefs de la diplomatie ont égrené leurs attentes, qui sont aussi celles des 27 pays de l'Union européenne, au nom desquels a eu lieu cette première visite occidentale au niveau ministériel. Des attentes, mais pas de conditions. Globalement, le nouveau pouvoir syrien rencontre bien peu de réticence. Les diplomates arabes et occidentaux, y compris américains, se succèdent à un rythme effréné dans les bâtiments officiels qui étaient hier ceux du régime de Bachar el-Assad. Un tel empressement est probablement dû à la volonté d'aider à la stabilisation du pays et de son voisinage régional. La nouvelle Syrie aiguise sans doute aussi les appétits des pays en quête d'influence au Moyen-Orient. Issus d'une guérilla islamiste, les nouveaux maîtres de Damas ont su rapidement s'imposer comme des acteurs fréquentables jusqu'en Occident. Reste à savoir l'usage qu'ils feront de ce crédit politique.
Nicolas Falaise est toujours au Proche-Orient. Les pourparlers entre le Hamas et Israël en vue d'une trêve et de la libération des otages ont repris hier au Qatar. Annonce ce vendredi du mouvement palestinien qui n'a pas été confirmé par l'État hébreu alors qu'une trentaine de personnes ont été tuées dans la journée dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, selon la défense civile. 7 personnes ont aussi été blessées dans un raid dans un camp de réfugiés de Naplouse en Cisjordanie occupé, d'après les autorités palestiniennes.
Des milliers de Sud-Coréens appelés à manifester aujourd'hui dans les rues de Séoul au lendemain de la tentative infructueuse d'arrêter Yoon Suk-yeol.
Le président déchu visé par un mandat d'arrêt pour rébellion et abus de pouvoir refuse toujours de répondre aux questions des enquêteurs un mois après avoir essayé d'imposer la loi martiale. Bonjour Camille Ruiz.
Bonjour.
En direct de Séoul, à côté de la présidence, de la résidence présidentielle. Il est un petit peu plus de 16h chez vous et les anti et pro Yoon Suk-yeol se font face tout près de chez lui.
Oui, Alban, les deux camps se font face, mais à plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre, des deux côtés du portail du domaine présidentiel. Celui-ci donne sur une route, mais la voie la plus proche est bloquée. La circulation, elle, quasiment à l'arrêt. Entre les deux manifestations, une quinzaine de bus policiers et des barrages. Les forces de l'ordre et les journalistes sont les seuls à pouvoir les traverser. Côté sud, donc, les militants pro-démocratie, ils sont assis par terre à même le béton et se distribuent gratuitement boissons chaudes et gâteaux. On peut apercevoir la présence de nombreuses organisations de la société civile grâce à leurs drapeaux. De l'autre côté, un peu plus au nord, les soutiens du président Yoon Suk-yeol agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Les références à Donald Trump sont partout, pancartes, slogans, dessins, car la plupart des électeurs de Yoon mobilisés ici sont de fervents admirateurs du milliardaire. Cette base électorale ultra-conservatrice chrétienne est présente devant la résidence presque 24 heures sur 24, et ce, depuis qu'un tribunal de Séoul, vous l'avez dit, a délivré le mandat d'arrêt contre le chef d'État le 31 décembre dernier. un mandat qui expire lundi prochain.
Merci Camille Ruiz, correspondante de RFI à Séoul. Et c'est donc dans un pays en pleine crise politique qu'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, est attendu lundi. Première étape de sa probable dernière tournée diplomatique. Il se rendra également au Japon mardi, alors que Joe Biden a bloqué hier le rachat de US Steel par le géant japonais Nippon Steel. Dernière étape de son voyage, la France, où Anthony Blinken devrait parler selon le communiqué du département d'État de la guerre en Ukraine et des crises au Moyen-Orient.
Et aux États-Unis, dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump, accusé de paiement dissimulé, connaîtra sa peine vendredi prochain, le 10 janvier.
C'est-à-dire 10 jours avant son retour à la Maison-Blanche. Une attaque politique illégitime, dénonce le président élu, qui ne devrait cependant pas aller en prison. D'après le juge du tribunal de Manhattan pour cette affaire, la seule au pénal pour le futur chef d'État américain allait jusqu'à son terme. Une première dans l'histoire américaine. Donald Trump, fervent soutien de Mike Johnson, le républicain a été réélu hier sur le fil à la présidence de la Chambre des représentants malgré l'opposition de 3 élus de son propre camp qui ont apporté leur voix à un autre candidat. 2 se sont ensuite rétractés.
Il est 2h06 à Port-au-Prince, la capitale haïtienne contrôlée selon les Nations Unies à 85% par les gangs armés accusés de nombreux meurtres, pillages et enlèvements contre rançon.
Un dernier fait en date, la mort dans une fusillade de 2 journalistes et un policier le 24 décembre. Alors, pour enrayer cette violence et soutenir la police d'Haïti dans le cadre de la mission multinationale de sécurité, 83 soldats venus du Guatemala et du Salvador sont arrivés hier. Les précisions sur place de Peterson Luxama.
Pour faire revenir la paix dans la capitale haïtienne, l'aide internationale arrive au compte-gouttes. Ce vendredi, 75 soldats guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens ont foulé le sol haïtien pour rejoindre les 400 policiers kényans déjà présents en Haïti. Lionel Lazare est le porte-parole adjoint de la police.
Ils sont arrivés dans le cadre des promesses faites pour assister et appuyer la police nationale d'Haïti dans la grande bataille qu'elle mène contre les gangs armés en Haïti.
De hautes personnalités, dont le patron du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le chef du gouvernement, le chef de la police et l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, sont venus en personne accueillir ces nouveaux soldats à l'aéroport international Toussaint Louverture. En ce qui concerne les 8 militaires salvadoriens, ils ont été déployés pour préparer l'arrivée imminente d'un contingent plus important de troupes salvadoriennes. L'arrivée de ce contingent est un bon signe, selon Lionel Lazare.
La police nationale.
La PNH et les policiers kényans poursuivent la bataille. Ces nouveaux effectifs, fraîchement arrivés, représentent une hausse significative par rapport à ceux qui étaient en place auparavant.
Une nouvelle étape dans cette collaboration internationale, mais le chemin est encore semé d'embûches pour retrouver un semblant de stabilité dans la vie quotidienne des Haïtiens. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Au Mozambique maintenant, fuir ou rester, Alban, terrible dilemme pour des milliers de Mozambicains.
Alors que les violences post-électorales ont déjà fait plus de 280 morts ces 2 derniers mois, d'après une ONG locale. Et si certains choisissent de partir pour se réfugier au Malawi ou en Eswatini, d'autres sont confrontés à des risques immenses, alarme l'ONU. Christina Okello.
Parmi les personnes en fuite figurent des réfugiés et des demandeurs d'asile vivant au Mozambique, comme Alexander Daïcha Saba. Âgé de 23 ans, ce jeune Tanzanien s'était installé à Maputo dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais face à la montée des violences, il a dû fermer son commerce.
L'endroit n'était plus sûr. Des inconnus venaient et demandaient « Vous êtes derrière qui ?» Si vous répondiez que vous souteniez Daniel Chapeau, il répliquait « Ils vont vous brûler, ils détestent ceux qui le soutiennent. » Et effectivement, une fois entre leurs mains, ils vous brûlaient ou ils détruisaient vos affaires. Nous avons tous dû abandonner nos biens.
Alexander a depuis quitté la capitale mozambicaine et se dirige vers la frontière avec le Malawi, où de centaines de personnes ont déjà trouvé refuge. Pendant ce temps, certains choisissent de rester, comme cet habitant mozambicain qui appelle les dirigeants à surmonter les différends politiques.
J'espère que le gouvernement et les partis pourront engager un dialogue et résoudre les problèmes du pays.
Daniel Chapeau, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, doit être investi le 15 janvier prochain, une échéance qui pourrait aggraver les tensions. Dans un communiqué publié au jour de l'an, la communauté de développement de l'Afrique australe a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et engager un dialogue constructif pour éviter une nouvelle escalade de violence.
Christina Okello.
En France, ceux qui l'ont eu vous le diront, la grippe est violente cette année.
Et les passages aux urgences se multiplient et les hôpitaux n'arrivent plus à faire face. Résultat, le personnel du service des urgences de celui de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne vient d'entamer une grève illimitée à Rambeng.
Les personnels du service d'urgence de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges alertent depuis plusieurs mois déjà sur le manque de moyens et d'effectifs. Hélène Scherrer, secrétaire générale de la CGT Santé du Val-de-Marne.
C'est une problématique qui a été soulevée depuis des mois par les agents. Et là, en plus, avec la période hivernale, le flux de patients n'a pas arrêté d'augmenter. Et le personnel n'est pas suffisamment en nombre et sont en plus épuisés physiquement et psychologiquement. Alors d'aujourd'hui, le personnel est à bout et demande des moyens humains supplémentaires pour pouvoir travailler en toute sécurité et pouvoir aussi assurer la prise en charge de nos patients dans les meilleures conditions possibles.
Plus de personnel, comme le détaille Véronique Fantini, secrétaire adjointe à la CGT Santé du 94.
À savoir une infirmière de jour et une infirmière de nuit supplémentaire et une aide-soignante de jour et une aide-soignante de nuit supplémentaire, et un renfort en brancardage et en agent d'accueil, parce que effectivement l'afflux fait que y a beaucoup de brancardage à faire et il y a beaucoup de patients enregistrés. Donc ils demandent des moyens humains supplémentaires.
La direction de l'hôpital promet la tenue d'états généraux des urgences dans les semaines qui viennent pour trouver des solutions.
On termine ce journal à l'Accor Arena de Bercy, revêtu du parquet du Paris Basketball.
L'équipe parisienne continue d'attirer les foules pour sa première participation à l'Euroleague. Mais après une entrée tonitruante au plus haut niveau, l'équipe de la capitale patine hier lors du choc de la 19e journée contre le FC Barcelone. Ils se sont inclinés pour la 4e fois de suite, 90 à 79. Le récit de cette folle soirée avec Victor Missistrano.
Jusqu'au bout, les 15 000 supporters auront poussé, sans jamais vraiment y croire, capable d'humilier le Barça chez lui au match aller. Paris a cette fois couru après le score toute la partie. Hervé quitte les tribunes l'air résigné avec une petite explication.
Fête de fin d'année, épuisement, fatigue, le cumul entre le championnat plus l'Euroleague, ça fait beaucoup.
L'ailier parisien Banjassi refuse de justifier ce trou d'air et le manque de réussite au tir de son équipe par cette cadence infernale.
Si on parle de fatigue, je veux dire, c'est tout le monde est concerné. On joue tous plus ou moins le nombre de matchs.
Je pense pas que ça soit de la fatigue.
Son coéquipier Nadir Ifi abonde, lui qui a tout tenté pour revenir au score.
Voilà, on sait que la saison est très longue. Chacun fait son maximum pour récupérer au mieux. Et voilà, on peut trouver beaucoup d'excuses, mais il faut devenir meilleur pour gagner des matchs.
Car c'est aussi l'adversité qui augmente. L'Europe, désormais prévenue. Après sa série de 11 victoires d'affilée, Paris n'avance plus masqué.
Voilà, on était un peu la nouvelle équipe en Euroleague et on a surpris. Maintenant, les équipes, elles sont plus prêtes.
Les équipes s'adaptent. C'est plutôt normal que les matchs soient de plus en plus difficiles. On prend conscience quand même qu'il faut qu'on sorte de cette mauvaise phase. Si je connais mes gars, on va relever la tête.
Ils pourront compter sur leur infatigable public, car l'engouement pour le tout jeune club parisien ne semble pas prêt de s'estomper.
Victor Missistrano, il est 8h13 à Paris, 7h13 en temps universel. On vous retrouve, Gaëtan Plenet.
Merci Alban Le Prince, et vous, on vous retrouve à 10h pour un nouveau journal. Boire, manger, attraper des objets aussi. La trompe de l'éléphant est multi-usage et elle ne cesse d'intriguer les scientifiques du monde entier. Dans la chronique science, on va tenter de percer le mystère de la trompe. Mais d'abord, la revue de presse internationale. Avec vous, Catherine Potet, et à la une, un appel pour soutenir les femmes afghanes.
Cet appel est lancé par le journal Le Soir. « Ne laissons pas les talibans effacer les femmes afghanes », s'exclame le quotidien belge. Bannies de l'espace public, privées d'éducation, les afghanes sont invisibilisées par le régime rétrograde des talibans qui mettent ainsi en péril l'avenir immédiat de leur pays, ajoute Le Soir, qui s'indigne de voir les afghanes emmurées vivantes, alors qu'un nouveau décret oblige à barricader toutes les fenêtres qui permettraient d'apercevoir des femmes chez elles. Une étape de plus dans une politique visant à leur effacement complet de la vie publique, déplore le journal. Quelle réaction de la part de la communauté internationale ? Plusieurs pays ont mis en garde le régime des talibans contre un possible renvoi devant la Cour internationale de justice. Autant d'initiatives salutaires, reconnaît Le Soir, qui toutefois reste pessimiste, estimant que pour les jeunes afghanes privées de leur avenir, le temps de la justice internationale risque d'être bien trop long. Les Iraniennes, elles, ont constaté que leurs droits n'ont fait que se détériorer au fil des décennies. Quant aux Syriennes, poursuit Le Soir, elles sont partagées entre espoir et inquiétude. Elles retiennent leur souffle.
Les femmes syriennes, justement, la presse internationale tente de connaître leur état d'esprit après la chute du régime de Damas.
C'est ainsi que l'envoyé spécial de Mediapart s'est rendu à Idlib, qui pendant 7 ans a vécu sous le régime des islamistes de Hayat Tahrir al-Sham, désormais au pouvoir à Damas. La journaliste du site d'information français Rachida El-Azouzi a rencontré une dizaine de jeunes filles au pied des escaliers de la faculté non mixte de sciences de l'éducation. Toutes portent un niqab noir qui ne laisse apparaître que leurs yeux. Des jeunes filles ravies de rencontrer une journaliste qui vient de Paris. Oui, Paris, la Tour Eiffel, s'exclame-t-elle. Ici, on a tout ce qu'il faut pour être heureuse et surtout, nous sommes libres, affirme Zainab, âgée de 28 ans, qui exprime son ras-le-bol d'entendre dans les médias occidentaux qu'Idlib serait une miniature de l'Afghanistan. On suit la charia, mais ce n'est pas Kaboul ici, dit-elle. Je peux étudier, travailler, conduire, me maquiller, je porte le niqab, mais personne ne m'y oblige, c'est mon choix. Mon corps. Toutefois, constate Mediapart, dans l'espace public dominé par les hommes, la couleur qui l'emporte quand on croise une femme demeure le noir du voile intégral, tout en réduisant sa rigidité et en se transformant. Ayat Tahrir al-Sham a maintenu sa radicalité idéologique salafiste. Dans les restaurants de la ville, précise Mediapart, les femmes sont séparées des hommes, poussées derrière des rideaux à l'abri des regards masculins.
Il y a beaucoup d'interrogations donc, Catherine, sur le nouveau au pouvoir à Damas. Le quotidien italien La Repubblica s'inquiète d'une dérive religieuse.
Les islamistes changent le contenu des manuels scolaires, assure La Repubblica, affirmant que la défense de la patrie devient ainsi la défense d'Allah. La plupart des changements, ajoute le journal, concernent la suppression des références à l'ère Assad, tant à Bachar qu'à son père, Hafez. Mais ce n'est pas tout. Selon La Repubblica, Nasir al-Kadri, qui était auparavant ministre de l'éducation dans l'administration d'Idleb, a également suggéré d'éliminer l'étude de la théorie de l'évolution. Il aurait aussi demandé de corriger une interprétation à ses yeux erronée d'un verset du Coran mentionnant ceux qui ont mérité la colère d'Allah, le traduisant par une référence aux chrétiens et aux juifs. L'ancien ministre, précise La Repubblica, se défend en assurant qu'il ne s'agit que de propositions. Mais sur sa page Facebook, nous dit le quotidien italien, les commentaires du type « qui vous a donné le droit d'effacer l'histoire de la Syrie » se multiplie.
La revue de presse internationale signée Catherine Potet. Merci Catherine. Il est 7h17 en temps universel.
RFI, toute l'actualité. Gaëtan Plenet.
Incompréhensible et regrettable réaction du ministre japonais de l'industrie alors que le président américain Joe Biden a annoncé hier bloquer le rachat prévu du géant de l'acier américain US Steel par celui japonais Nippon Steel. Ça poserait des risques pour notre sécurité nationale et nos chaînes d'approvisionnement essentielles, s'est expliqué Joe Biden. Le président qui cédera sa place à Donald Trump le 20 janvier prochain et ce dernier conserve l'un de ses soutiens au perchoir de la Chambre des représentants. Mike Johnson a été réélu speaker hier après seulement 2 tours de scrutin. En Corée du Sud, pro et anti Yoon Suk-yeol attendu dans les rues de Séoul. Aujourd'hui, Yoon Suk-yeol, président déchu, mais toujours en liberté. Malgré un mandat d'arrêt, hier, les enquêteurs se sont présentés au domicile de l'ex-dirigeant pour l'interpeller, mais son service de sécurité et des soldats les en ont empêchés. 6 000 prisonniers bientôt libérés en Birmanie, annonce de la junte à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. La date précise de leur libération n'a pas été précisée, ni même les motifs pour lesquels ils sont emprisonnés. Et puis la reprise de la Ligue africaine des champions de football, 4e journée de la phase de groupe. 4 rencontres au programme aujourd'hui. Les Young Africans ouvrent le bal face au TP Mazembe. Ce sera à 13h temps universel. Hier, les Algériens de Belouizdad l'ont emporté 1-0 sur les Égyptiens de la Lali. C'est peut-être l'organe le plus étrange du règne animal, aussi polyvalent que complexe. On s'intéresse à la trompe de l'éléphant dans la chronique science sur RFI avec vous, Caroline Lachowski. La trompe, c'est un organe dit préhenseur qui sert à apprendre, à saisir. C'est l'un de ses nombreux usages. Il intrigue les chercheurs de par sa puissance et sa précision notamment.
Et oui, la trompe, pour un éléphant, c'est bien plus qu'un nez, une bouche, un bras, une main et des doigts. C'est un peu tout cela en même temps. Les pachydermes utilisent cet appendice préhensile pour aspirer leur nourriture, s'asperger d'eau ou de sable, mais aussi pour communiquer et pour fabriquer et manipuler des outils. Car une trompe, c'est à la fois très puissant, totalement flexible et extrêmement précis et sensible. Mais comment cet organe, composé principalement de muscles, résultat d'une fusion entre le nez et la lèvre, lèvre supérieure de l'animal, sans aucun os, peut-il être aussi polyvalent et multitâche, capable de soulever des troncs d'arbres comme de saisir délicatement une brindille, de barrir comme une trompette ou de câliner son petit. De quoi susciter aussi l'intérêt des chercheurs en robotique. Alors une des clés de cette polyvalence résiderait dans les fameuses rides qui plissent la peau des éléphants et en particulier dans les rides qui parsèment leur trompe. C'est ce que viennent de mettre en évidence une équipe de chercheurs, biophysiciens, biomécaniciens et neuroscientifiques de l'Institut Max Planck et de l'Université Humboldt de Berlin dans une étude parue dans la revue de sciences ouvertes de la Royal Society. Je cite l'un des auteurs de cette étude, le professeur Brecht, « Leur trompe est l'organe de préhension le plus incroyable du monde, avec ses 150 000 faisceaux musculaires capables de saisir avec puissance, précision et aspiration des petits objets comme des charges lourdes. »
Alors Caroline, quel rôle jouent ces rides, ces plis dans les performances de cet organe ?
Ces plis ou ces rides servent en quelque sorte de jointure souple, un peu comme nos coudes ou nos mains. C'est en constatant que ces rides étaient toujours à la même place chez les éléphantaux et chez les éléphants, il est courant, chez les mammifères humains compris, que les petits naissent ridés avec un peu trop de peau pour leur morphologie. Mais chez les éléphants, les chercheurs ont pu observer que ces rides apparaissaient bien avant la naissance, en même temps que la trompe elle-même, vers le 20e jour de la gestation et se creusaient jusqu'au 150e jour d'une gestation qui dure 22 mois chez les éléphants. Les scientifiques ont pu corroborer cette découverte chez les deux espèces d'éléphants actuelles, ceux d'Asie et ceux d'Afrique, qui sont dotés de trompes légèrement différentes. Chez les éléphants d'Afrique, la trompe s'achève par un appendice en forme de deux doigts, tandis que les éléphants d'Asie n'en ont qu'un seul. Mais les éléphants d'Asie compensent en quelque sorte l'absence d'un deuxième doigt par un plus grand nombre de rides à des endroits pivots de leur trompe. Dernier détail de cette étude, les plis, les rides de la trompe des éléphants se creusent avec l'âge à droite ou à gauche, selon que les éléphants sont droitiers ou gauchers de la trompe.
La chronique science. Merci Caroline Lachowski. Et autre chronique du jour, celle consacrée aux jeux vidéo, la chronique gaming avec vous Jennifer Lufo. Et ce matin, vous nous parlez d'un sujet qui agite le secteur depuis plusieurs années, la dématérialisation.
Fini les boîtes en plastique, les manuels papier, les allers-retours au magasin. Aujourd'hui, on télécharge, on installe et on joue. Mais quelles sont les réelles conséquences de cette transition pour les joueurs, les éditeurs et l'industrie ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant, pour acheter un jeu vidéo, il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui, les plateformes de téléchargement comme Steam, PlayStation Store, Xbox Live ou encore Epic Games Store sont devenues la norme. On achète une licence numérique, un droit d'accès au jeu, que l'on télécharge sur sa console ou son PC, et ce changement a eu des effets considérables.
Alors les effets positifs peut-être d'abord pour les joueurs.
Oui, la dématérialisation offre bien des avantages, hein. Plus besoin de se déplacer, les jeux sont disponibles instantanément, souvent dès leur sortie. On peut également profiter de promotions régulières et accéder à un catalogue immense, parfois à des prix plus attractifs qu'en version physique. De plus, le dématérialisé facilite l'accès à des jeux indépendants ou plus anciens qui n'auraient pas forcément eu droit à une distribution physique. Cependant, cette transition n'est pas sans inconvénient, hein. L'un des points les plus critiqués est la perte de la propriété physique. On ne possède plus un objet tangible, mais une simple licence d'utilisation. Et ça soulève aussi des questions sur la revente, le prêt ou encore la collection des jeux. Aussi, la question du prix est plus nuancée qu'il n'y paraît, puisque si certaines promotions sont intéressantes, eh bien les prix de lancement des jeux dématérialisés sont souvent équivalents, voire supérieurs à ceux des versions physiques.
Alors ça, ce sont les conséquences pour les joueurs, les éditeurs maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils font le choix de la dématérialisation, Jennifer ? Quels avantages pour eux ?
Pour les éditeurs, la dématérialisation représente une opportunité de réduire considérablement les coûts de production, de distribution et de stockage. Plus besoin donc d'imprimer des manuels, de fabriquer des boîtes ou de gérer un réseau de distribution physique. Ça permet également un contrôle accru sur la distribution et la lutte contre le marché de l'occasion. Ils peuvent ainsi proposer des offres plus ciblées, dont par exemple des DLC, hein, des extensions, et des mises à jour plus facilement. La dématérialisation est une tendance croissante et il est peu probable qu'elle disparaisse. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre les avantages du numérique et les attentes des joueurs. La question de la propriété, de la revente et de la collection des jeux reste un enjeu majeur. Et en plus, il est crucial d'assurer un accès équitable aux jeux pour tous les joueurs, y compris ceux qui n'ont pas accès à une connexion Internet au débit.
Mais alors Jennifer, est-ce que ça ne veut pas dire, dans le fond, que l'avenir du jeu vidéo réside peut-être dans un modèle hybride ?
Pourquoi pas, en combinant les atouts du physique et du numérique afin de satisfaire tous les types de joueurs. C'est déjà en train de se produire avec des jeux qui proposent des éditions collector, contenant non seulement une version physique du jeu, mais aussi des artbooks avec des images d'illustration du jeu, des figurines, un CD contenant de la musique du jeu, bref, tout ça pour quelques centaines d'euros.
Merci Jennifer Lufot pour la chronique gaming. 8h25 à Paris.
RFI Matin.
Les voies du fleuve, c'est le thème de la 17e Biennale d'art contemporain de Lyon en France. Elle s'est ouverte en septembre et elle se referme demain. Ultime occasion pour nous de vous parler de ce spectacle The Speech, le discours en français. On le doit à l'artiste et musicienne lituanienne Lina Lapelytė qui nous livre ici, et c'est vrai que c'est assez contradictoire avec le nom du spectacle, une performance sans mots mais avec des cris d'animaux imités par des enfants censés symboliser ces cris, les souvenirs et les fantasmes qu'ils évoquent chez eux. Et le résultat est plutôt étonnant. Reportage de José Marinho.
Dans The Speech de l'artiste lituanienne Lina Lapelytė, des gosses singent des cris de bêtes en courant dans tous les sens. Cette vidéo, filmée à la Bourse du Commerce de Paris et présentée à l'intérieur d'un conteneur à la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, donne la voix à ceux qui n'ont pas, enfants comme animaux.
First of all, I thought of this like a noise piece.
L'idée, c'était d'avoir une œuvre produite par des enfants. Je voulais leur permettre d'imaginer un animal et de faire quelque chose qui soit différent de ce qu'on trouve dans les livres. Par exemple, le cocorico, de sortir de ce qui était attendu. Et je me suis rendu compte qu'en s'éloignant de l'interprétation humaine qu'on connaît, on pouvait obtenir quelque chose de très abstrait et à la fois très beau. Pour moi, les enfants sont plus proches de la nature que ne l'est l'adulte. Puis il y avait également cette idée de la voix qu'on donne aux enfants, la question de leur futur, de leur avenir. Je trouve que aujourd'hui, finalement, le langage nous manque, on n'a pas toujours les mots.
Performance, musique et installation se confondent constamment dans son travail. Née en 1984 en Lituanie, passée par le Royal College de Londres où elle étudie les arts du son et du spectacle, Lina Lapelytė remporte le Lion d'or de la Biennale de Venise en 2019 avec Sun and Sea. Dans cet opéra, un groupe de baigneurs en bikini chante sur une plage artificielle le désastre climatique. Reconsidérer notre place dans le monde, c'est son but, et The Speech l'illustre parfaitement. Bien qu'elle s'intitule Le discours en français, sa nouvelle création suggère l'échec de la parole.
Quand
on regarde les deux dernières années de situation politique avec les guerres, la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, on voit finalement que le langage ne joue pas son rôle et qu'il nous manque des mots. On n'a pas réussi à trouver un accord, et donc je me dis que peut-être on devrait arriver à proposer un autre langage.
The Speech est le résultat d'un travail amorcé par l'artiste depuis 2010 sur la transformation de récits personnels en voix collective. Il révèle aussi une scène artistique lituanienne où l'art non institutionnel ne demande qu'à être encouragé.
Pour moi, ce n'est pas vraiment l'art qui peut changer les choses, mais plutôt les actes et la politique.
Dans une époque obsédée par le contrôle, The Speech de Lina Lapelytė est un plaidoyer pour le lâcher prise et un adieu au langage humain trop individualiste.
The Speech de Lina Lapelytė à la Biennale d'Art Contemporain de Lyon. C'est jusqu'à demain. Le prochain journal dans un petit peu plus d'une minute consacré à l'actualité africaine. Place ensuite à la dernière partie de RFI Matin. Christophe Diremzian reviendra pour faire le point sur les résultats sportifs avec notamment la 4e journée de la Ligue des Champions d'Afrique. Et puis on parlera aussi de panafricanisme avec Jean-Baptiste Placa. Je vous dis à tout de suite sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Le rock'n'roll est-il l'émanation de la culture africaine-américaine ? Plus qu'un genre musical, c'est une attitude, un esprit, des convictions qui animaient des musiciens devenus des icônes. Dans son dictionnaire chronologique du rock, Bruno Blum bouscule les idées reçues et scrute avec acuité les évolutions stylistiques d'une forme d'expression dite révolutionnaire.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Ancien officier formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Guillaume Ancel questionne à la fois son expérience du commandement et le rôle de la France en OPEX. Alors que revient la guerre en Europe, il interroge la culture du silence, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette et son dernier livre.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.